philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Genard le 2 mars 1989.
Essayer d'entrer dans la lumière de la philosophie du vivant, dans le mystère de la procréation. Je dis bien mystère, hein? Il y a quelque chose que le philosophe ne peut pas comprendre dans la procréation. Quand il regarde dans la lumière du vivant, cette chose, cette très étonnante, d'une reprise de la vie. Parce que c'est ça la procréation. Le père et la mère sont source de vie d'un être nouveau. Dans son aspect fondamental et premier, le moment de la conception. Alors je vous disais, ce serait très important au point de vue philosophique de regarder tout le développement de l'être embryonnaire depuis le premier moment de la conception jusqu'au moment de la naissance. Se devenir à l'intérieur même de cet être nouveau. Et c'est là où je dis le mystère, vous voyez, parce que il y a une reprise radicale, substantielle. C'est pas simplement une continuité, hein. Il y a une continuité de vie, mais il y a une reprise. Au niveau de l'espèce, au niveau de la nature. La causalité propre des parents au niveau de la vie est une causalité d'un caractère très particulier. C'est quelque chose de nouveau qui ne s'explique pas au niveau purement physique. Un dépassement dans l'être nouveau. C'est déjà vrai dans l'ordre biologique des vivants de vie végétative. Le grain de blé qui donne une quantité d'autres grains de blé. Là, une multiple. Comment ça se fait? Il y a du plus. Il y en a un au point de départ, c'était simplement la continuité. Il y en aurait un autre. Mais il y en a une quantité. Expliquez ça. Et comment philosophiquement on constate cela, si on le constate, que la fécondité implique une espèce de luxe, de surabondance, de dépassement. Il y a toujours un dépassement. Quelque chose qui ne s'explique pas par le point de vue des causalités purement déficientes. Dans la causalité purement déficiente, agens, agite, simile, sibi. Vous savez ça par cœur. C'est pour le savoir par cœur. Ça, vous savez un peu de latin. Agens, agite, simile, sibi. Je traduis. La cause efficiente agit semblablement à elle-même. Ça, c'est proche de la cause efficiente. agens, agit, simile, sibi. Donc il agit semblablement à ce qu'il est. Il faut comprendre que le grain de blé donne naissance à d'autres grains de blé. C'est sûr. Donc simile, sibi, semblablement à lui, mais avec une prodigalité insoupçonnée. Quantité qui fait que cette quantité n'est plus la même. Je ne sais pas combien de grains de blé peut y avoir d'un seul grain de blé, mais du fait même qu'il y en a plus qu'un, c'est déjà quelque chose d'invraisemblable. D'où ça vient? Il faut bien que ça vienne d'une source. Comment ça se fait que la vie dans sa fécondité implique une surabondance. Oui, c'est ça, je crois, qui va permettre d'avoir comme un support imaginatif pour l'évolution. Et passage de la quantité à la qualité. C'est un fait. On est devant une surabondance quantitative. Y a-t-il une surabondance qualitative? Je pose le point d'interrogation. On ne pourra pas traiter l'évolution ici. Mais c'est à propos de la procréation et de la génération qu'il faut traiter de l'évolution comme phénomène. Puisque c'est toujours à partir de la génération que l'évolution a lieu. C'est pas après la naissance. Ça, tout le monde est d'accord. Après la naissance, on peut s'adapter à des milieux différents, on peut être né à l'équateur et vivre au pôle Nord. Pour petit bébé. Mais si on l'enveloppe suffisamment bien, il pourra vivre en faisant grande attention, en s'adaptant. Et ça peut se faire. Les adaptations sont énormes. Hein. Tous ceux qui sont venus de la guerre ont dit: un animal aurait été à notre place, il aurait crevé. Et nous ne sommes pas morts puisque nous sommes entrés. La bête humaine a une faculté d'adaptation invraisemblable. La bête humaine au niveau biologique. Ça c'est vrai ça. Je crois que c'est l'être qui évolue plus, c'est normal. Hein, puisque on est parmi tous les vivants que nous connaissons, quand même, hein, le roi, il faut quand même dire ça, le roi des animaux. On règne sur les animaux, c'est déjà quelque chose. C'est sur les petits cochons, les petites poules, c'est pour ça qu'on leur donne des traitements invraisemblables. On est une tyrannie à l'égard des porcs. C'est une tyrannie effrayante. Oui, quand on fait des exploitations, on les empêche de bouger. Pour qu'ils grossissent plus vite. Vis-à-vis des petites poules, on est tyrannique pour qu'elles pondent plus. On n'accepte qu'un seul, geste. Tous les autres, inutiles. Comme la nature est plus généreuse que l'homme. Hein, c'est extraordinaire. Comme l'homme, quand il domine, devient un tyran. Je ne sais pas comment Dieu doit regarder ça. Peut-être assez curieux. Et les anges aussi. C'est terriblement tyrannique. En vue d'efficacité. La graisse du porc, c'est l'efficacité. C'est une efficacité. Les œufs, d'une efficacité. Et ainsi de suite. Hein. Mais il y a quand même là quelque chose de très extraordinaire. C'est cette générosité. Là, je crois que le philosophe qui essaie de comprendre doit être en admiration. Il y a quelque chose qui lui échappe. Ça, il y a quelque chose qui lui échappe. Il y a quelque chose qui dépasse tout. La vie implique en elle-même cette générosité, cette espèce de surabondance. Quand vous regardez en dehors de l'homme, l'homme, c'est étonnant. Quand vous regardez en dehors de l'homme, vous voyez que c'est la même chose. La fécondité est comme une espèce de fête de la nature. Au niveau des arbres, quand les arbres fleurissent, il y a une espèce de profusion étonnante. Parce que c'est le sommet de la vie végétative. Le sommet de la vie végétative, c'est la fécondité. Alors pour que ce sommet de la vie végétative qui est la fécondité se manifeste, il y a une espèce de générosité quantitative étonnante qui ne s'explique pas. Mais ne confondons pas cette générosité quantitative avec une mutation spécifique. C'est un problème de l'évolution. C'est qu'il y a une mutation spécifique, si l'évolution existe. La profusion quantitative est déjà quelque chose d'extraordinaire. Parce que ça montre comment la quantité est au service de la qualité. C'est à cause de ça, cette profusion. C'est pour que la qualité puisse exister. Pour qu'il puisse y avoir une fécondité assurée de l'espèce. Étant donné que cette espèce n'est pas unique, qu'il y en a d'autres. Alors pour l'homme, qui est au sommet de tous les vivants, c'est sûr qu'il y a là quelque chose de très étonnant. L'homme peut et doit dominer sa vie végétative. Il doit dominer sa vie végétative en ce sens qu'il doit manger ce qui est normal. Il doit réparer ses forces et permettre, quand il est dans un âge où il est capable de grandir, de grandir. Et l'homme doit dominer sa vie végétative au niveau de la procréation. C'est normal. La vie végétative est au service de la vie spirituelle. Alors, ce serait intéressant, hein? Ce serait très intéressant de voir, mais ce n'est pas le regard de la philosophie du vivant, hein? Faisons attention. Ce serait très intéressant de voir comment l'homme peut dominer sa vie végétative. Alors oui, ça c'est tout problème éthique. De l'usage de notre vie végétative. De l'usage de notre vie, de notre appétit à l'égard de la nourriture, de notre usage de l'appétit à l'égard de la procréation. Ça, le problème éthique. Ici, en philosophie du vivant, je regarde le caractère spécifique, caractéristique de la vie végétative. Et je vois que la vie végétative implique en elle-même cette structure fondamentale, l'assimilation, la croissance, la procréation. La vie végétative est structurée de cette manière-là. Alors il y a des quantités de choses secondes, hein, c'est évident. Parce que pour l'assimilation, déjà, hein, pour que l'assimilation se fasse, on sait très bien tous les dérèglements possibles, tout ce qu'il peut y avoir, tout l'aspect nerveux, l'aspect motrice, l'aspect d'énergie de l'individu. Mais que Aristote n'a pas regardé. Que nous devons nous regarder au niveau du conditionnement de la vie végétative. Il est évident que lorsque nous sommes trop tendus, les stress, comme on dit aujourd'hui, hein, quand il y en a trop, ça a une répercussion sur notre vie d'assimilation. Vous avez mal à l'estomac, Ça n'existait pas avant qu'on faisait du sport régulièrement. Tandis que la vie, hein. Je sais pas comment se comporte l'estomac du petit cochon quand on l'immobilise. Heureusement qu'il y a des vétérinaires. Je ne sais pas comment se comporte l'estomac de la petite poule quand on l'immobilise. On immobilise un peu, pas de la même façon, hein. Pas de façon aussi tyrannique. Mais le noviciat est une immobilisation. Pour la vie végétative, ça c'est bien évident. Une immobilisation. Il faut faire attention, parce que si ça marche mal après, hein, le noviciat n'est pas une finalité, c'est un point de départ. Après, et puis il y a la vie d'étude. La vie d'étude, c'est plus la vie végétative. Donc on doit équilibrer ça. Il est évident qu'une tension trop grande se répercute. Oui, c'est le conditionnement de notre vie végétative. Notre vie végétative, elle doit exister, elle existe. Et il faut faire attention de ne pas la stresser trop. À cause des passions affectives, parce que c'est ça qui est le plus grand conditionnement, à cause de la vie de pensée. Intellectuelle. Et nous, à cause de la vie spirituelle, surnaturelle. Vous voyez, il y a une espèce de cohabitation qui est très curieuse, qui est très curieuse. La vie végétative, elle est à quel niveau? Je crois que c'est toujours le sous-sol. Toujours le sous-sol. Hein. Une bonne cuisine doit être au sous-sol. La végétation, c'est le sous-sol. C'est pas le rez-de-chaussée. Non, non, c'est le sous-sol. Vous avez après la vie sensible. On va la voir. Je crois que c'est l'entrée. Oui, parce que c'est là que c'est l'accueil. On n'est pas accueillant dans la vie végétative. Parce que l'autre est toujours celui qui prendra un morceau de plus. Et ça ne se partage pas. Si l'autre mange le bon morceau, vous comprenez, c'est très gênant. La vie végétative, elle est terriblement hérocentrique. Ça, c'est sûr. C'est la vache qui a son pot de son piquet, et elle n'est pas du tout accueillante. Ben non, c'est pas accueillant la vie végétative, c'est pour ça que c'est le sous-sol. Tant que possible, c'est... La vie sensible est très accueillante. Oui, une physionomie nouvelle. Oh, c'est agréable. On n'en a pas vu depuis longtemps. Donc on est très accueillant. Puis après, mais dans la vie sensible, il y a aussi la vie affective. Alors la vie affective, elle peut être très accueillante. Au contraire, c'est des griffes. Il y a de la haine qui peut pousser. Puis il y a la vie intellectuelle. La vie intellectuelle est universelle. Oh là là. C'est bien plus que l'accueil. Et quelquefois, c'est l'autre qu'on n'a jamais accueilli qui m'intéresse le plus. Puis, il y a au-dessus encore, hein, la vie divine. Oui, le support, ça porte tout ça, là, sous-sol. La vie divine va tout envelopper. Et les catholiques, oh là là, cette universalité encore plus grande. Les catholiques, j'ai pas le droit de regarder quelqu'un comme un ennemi et aimer vos ennemis. Tandis qu'au niveau de la vie intellectuelle, oui, il y a des ennemis. Il y a tous les gens qui ne pensent pas comme nous. C'est désagréable. Faut faire attention. On va cesser de contaminer. L'intellectuel n'est pas tellement accueillant comme l'intellectuel. Il est très accueillant pour des amis. Tandis qu'être catholique, c'est ouvert à tout le monde. Et aimer vos ennemis. Et c'est ouvert sur le ciel. Donc c'est infini. sa vie, c'est éternel. C'est extraordinaire. Ça, c'est la vie. La vie contemplative. La vie divine contemplative implique tout ça. Et tout ça est supporté par ma vie végétative. Avec le sous-sol doit être ça, solide. Hein. Mon petit estomac. Hein. Vous voyez ça? Tous les stress de la vie sensible et affective, de la vie intellectuelle. Je mange en pensant ce que c'est que, quand même, hein, l'être en acte. Je vais avancer, alors ça reste fixé. Et je continue de penser à l'être en acte. Puis à la lecture, au réfectoire, encore autre chose. Et ça, c'est ma vie divine. Et ma vie végétative doit supporter tout ça. Commode. Ça, il faut bien le voir, c'est pas commode. Et ma vie végétative n'est pas changée spécifiquement par ma vie sensible, par ma vie intellectuelle, par ma vie divine. Il y a quatre niveaux de vie. Et je peux, et je même dois, je dois étudier philosophiquement chacun de ces vies. De ces niveaux de vie. Vie d'assimilation de l'aliment. C'est pas parce que j'ai la vocation monastique que mon estomac va s'arrêter. Ah, vous êtes moine, plus le droit de manger. Le carême, plus le droit de manger. Aujourd'hui, comme c'est la mi-carême, alors c'est différent, n'est-ce pas? Alors, on m'a dit adroitement, c'est la mi-carême, prenez du miel. Alors, vous voyez, très bien. Alors, c'est la mi-carême. Donc, c'est... On voit très bien, vous voyez. Le temps liturgique ponctue notre estomac. Et l'estomac... Il dit, mais non, la vie liturgique n'a rien à voir avec mon estomac. Rien à voir. Déterminé à tout. Et déterminé d'une façon unique, mon estomac. Et cependant, oui. C'est curieux, hein, tout ça. Alors, est-ce que c'est tyrannique? Est-ce que la liturgie est tyrannique par rapport à l'estomac? L'affaire de moi. Quelqu'un de bien, bien classé. Donc, vie végétative. La croissance. Parce que si on entre jeune, on peut encore grandir. Si on entre plus âgé, non, la croissance est arrêtée. Mais on ne fait pas attention. On ne dit pas à un novice qui entre, est-ce que votre croissance est arrêtée? La vie, je ne sais pas, je suis encore jeune, ça peut peut-être encore croître quelques années, mais ça va vite se stabiliser. Et puis la procréation. Ah, là c'est plus grave. La vie religieuse dit non, dépassement. Vous voyez, je me place un point de vue purement philosophique, hein, purement philosophique. Ben oui, c'est raide. Oui, une taille qui est assez raide et qui est assez extérieure. La procréation pour la vie végétative finalise la vie végétative. Ça, c'est la grande vision et il faut l'affirmer. C'est la grande vision d'une philosophie réaliste. C'est l'acte qui permet à l'espèce de survivre. Je suis dans la procréation comme témoin de l'espèce pour qu'elle survive. Et instrument de l'espèce. Oui, c'est là le réservoir profond de la vie. L'espèce. Qui en dernier lieu explique cette profusion. Parce que l'espèce doit survivre. ma vie religieuse me fait comprendre que je dois, au niveau de cet appétit, par rapport à la procréation, dire non, c'est pas pour moi, je le dépasse. Sans trop bien savoir comment ça se fait. C'est bien évident. Ça reste toujours assez obscur. Quand on veut vraiment regarder de façon parfaitement intelligible ce que représente la procréation, on voit très bien que c'est quelque chose qui nous dépasse. Qui dépasse l'individu. Je dis bien l'individu comme tel. Puisque c'est au nom de l'espèce qu'il y a la procréation. C'est bien l'individu qui en prend la responsabilité, mais c'est au nom de l'espèce. Ce qui explique qu'il peut y avoir des infécondités. Ce qui explique qu'il peut y avoir des malformations dans le fruit. On ne commande pas entièrement. Personne ne désire avoir un enfant mal formé. Personne. Ça nous dépasse. On essaie, hein, au point de vue médical, au point de vue scientifique, de connaître le mieux possible la procréation. Mais il y a des tas de choses qu'on n'arrive pas. L'atavisme. L'atavisme est une chose invraisemblable. C'est invraisemblable. Plus on connaît l'atavisme, plus on voit que ça nous échappe. Parce que c'est évident que l'arrière-grand-père, vous n'avez aucune autorité sur lui. Et vous n'avez pas d'autorité sur l'arrière-arrière-grand-oncle, qui est un brigand. Aucune autorité. Et donc, vous allez peut-être ressembler à ce grand-oncle brigand, avoir des dispositions alors que vous avez des parents d'une vertu consommée. Il y aura un atavisme qui froque ça. C'est très très cru. C'est très mystérieux. Hein, au plan purement philosophique. Et d'une philosophie d'analyse à la philosophie du vivant. Dans une vision de sagesse, peut-être, dans la lumière de la création. Et oui, dans la lumière de la création, tout de suite, il y a l'âme. Échappe aux parents, créés directement par Dieu. Mais au niveau de la philosophie du vivant, je n'en parle pas. Au niveau de la vie végétative, je pourrais en parler quand j'aborderai la vie intellectuelle. Donc, 1, 2, 3, au niveau 3, et au niveau 4. J'aborderai le problème de l'âme ici, de l'âme spirituelle. Attention, j'ai abordé le problème de l'âme avant les degrés du savoir. J'ai vu qu'il y avait une âme, mais je n'ai pas précisé plus. J'ai précisé l'âme comme principe de vie, comme cause de vie. Alors, est-ce que je peux me poser la question au niveau de la procréation? D'où vient l'âme? L'âme humaine. Comme je n'ai pas encore traité de l'âme spirituelle, donc, je peux dire que la procréation humaine implique nécessairement la naissance d'un être humain semblable au point de vue de sa vie, à la vie de ses parents. Mais savoir si un concours à l'égard de Dieu ou pas, les traditions religieuses en parlent. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que c'est un mythe? Ou est-ce que c'est une réalité? Au niveau de la philosophie du vivant, qu'étudie la vie végétative ne peut rien dire. Je peux simplement poser un point d'interrogation, c'est déjà beaucoup. L'existence de l'âme a été affirmée dès le point de départ. Et c'est à partir de l'existence de l'âme que je vois les différents degrés de la vie. Mais d'où vient l'âme humaine, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que les traditions religieuses parlent pour la procréation d'un concours avec Dieu. Une tradition religieuse, Ève. Ève dit, j'ai enfanté un fils de par Yahvé. Elle ne dit pas de par Adam. C'était pas la peine de le révéler, ça. Mais de par Yahvé. Ah, ça, oui. Donc, la révélation religieuse, la tradition religieuse la plus vénérable pour moi, et pour vous aussi, la tradition religieuse la plus vénérable, c'est la tradition judéo-chrétienne. Et la tradition judéo-chrétienne me dit qu'il y a un concours avec Dieu. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Je ne peux pas le dire. Je dis que c'est une tradition religieuse. Donc, je pose un point d'interrogation, puisque je ne le résous pas. Comment voulez-vous le résoudre au niveau de la philosophie de la vie végétative? Je ne peux pas. Parce que quand je regarde les autres animaux, je crois tout bonnement qu'une girafe est source d'une autre girafe et de l'âme de la girafe. Ou plus proche de vous, le petit chien, le petit chat ou la petite souris. Alors, est-ce que pour l'homme, la procréation s'explique uniquement par le point de vue génétique de l'union de l'homme et de la femme? Est-ce qu'il y a autre chose? Loyalement, le philosophe doit se poser la question à cause des traditions religieuses. Et le savant devrait se poser la question en disant, je ne peux pas la traiter. Ma science ne me permet pas de la traiter. Mais il y a un problème. Les traditions religieuses posent le problème. Autrement, on n'est pas honnête. Il faut être honnête. Il faut reconnaître que ce qu'on fait ne peut pas traiter telle question. La méthode scientifique de la biologie ne permet pas de parler de l'âme. Et donc ne permet pas de résoudre le problème, est-ce que la procréation, dont je peux étudier les éléments, est-ce que la procréation implique l'appel à un Dieu créateur? Humaine ou la procréation animale, la génération animale. Je peux pas le dire avec la lumière que j'ai de la philosophie du vivant. Parce que quand j'ai posé l'âme, j'ai posé une âme, principe de vie, de toute la vie humaine. Si je suis au niveau végétatif, est-ce que la vie végétative de l'homme fait appel à autre chose, à sa vie spirituelle? Je dirais, tout m'incline à dire oui, puisque le petit être vivant, tout de suite après sa naissance, manifestera une vie qui n'est pas seulement végétative, qui est affective, sensible, affective. Et même de temps en temps, il y a quelque chose qui indique qu'il y a plus le sourire de l'enfant crois que le sourire de l'enfant est la première manifestation qui a autre chose que le point de vue purement sensible. Et l'animal ne sourit pas. Tu as vu un singe sourire? Non, jamais, moi. Un petit singe sourire. Des grimaces, oui. On ne sourit pas en face de sa glace. On fait des grimaces. On sourit en face d'un être humain. Il appelle le sourire. L'enfant sourit en face de sa mère, de son père, de son frère. C'est extraordinaire, ça. Je crois que le sourire, c'est la première manifestation qu'il y a quelque chose de spirituel dans le tout petit enfant. Or, l'enfant s'est développé normalement, progressivement. Et la science a pu noter ce progrès de façon continue. Si le sourire montre qu'il y a quelque chose d'autre que la vie purement sensible, purement affective au niveau sensible, qu'il y a de voir, ça prouve que dès le point de départ, il y avait une âme spirituelle. Je ne peux pas aller plus loin. Je pose la question. C'est important. Parce qu'en posant la question, il y a une alerte par rapport à tout le reste. Et je pourrais dire à partir de là, vous voyez, que dès le premier moment de la conception, il y a quand même quelque chose qui dépasse. La vie végétative, la vie sensible, la vie qui est donc d'ordre spirituel. Oui, c'est important de voir quand se pose le problème dans le développement de la vie végétative, quand se pose le problème de quelque chose qui est autre. Mais je ne peux pas dire dès le point de départ, au plan philosophique, nécessairement il y a l'intervention de Dieu. Je peux le dire au niveau philosophique, mais je peux le dire qu'à partir de ma vie spirituelle, de l'éclosion de la vie spirituelle. Donc, je crois que là, c'est quelque chose d'important. Deuxièmement, en appendice, parce que c'est le philosophe constate ça, hein. On ne peut pas aller beaucoup plus loin. Le philosophe rejette à l'éthique l'usage. Comprenez bien ça. Le philosophe de la vie humaine, dit que le problème de l'usage, de l'art, de l'intervention de l'art, sur le point de vue procréation, sur le point de vue de la croissance de l'embryon, ceci regarde l'éthique et ne peut pas se résoudre uniquement au niveau de la vie végétative. Et le pourquoi de cela est très net. C'est que ce tout petit embryon, dès sa conception, est appelé à un développement spirituel. Et si je suis chrétien, je dis est appelé à un développement de vie divine. Donc, je dois le respecter en fonction de tout son développement. Je n'ai pas le droit de le traiter comme une chose que je connais telle qu'elle est à ce moment-là. Puisque il y a dans ce point de départ une orientation vitale vers la vie sensible, vers la vie intellectuelle et même une capacité à une vie divine. Ça, je ne peux le dire que si je suis chrétien. C'est évident. chrétienne. Donc vous voyez, je crois que c'est important de bien comprendre que c'est au niveau éthique et non pas au niveau philosophique du vivant que je peux traiter cette question. Donc l'efficacité n'est pas un critère. C'est pas parce que ça réussit. C'est pas un critère éthique. L'efficacité ne suffit pas pour légitimer une intervention artistique. Seule l'éthique peut légitimer une intervention artistique. Et une éthique de la vie spirituelle et une éthique chrétienne. Si je suis chrétien. Parce que vous voyez bien ça, les deux lumières différentes. La lumière philosophique de la vie humaine et la lumière éthique. Puisqu'il s'agit d'un usage. Il s'agit d'une intervention. Il s'agit de modifier. Dès qu'il s'agit de l'usage, de modifier quelque chose, je suis dans l'ordre éthique. Je suis plus dans l'ordre de la philosophie du vivant. La philosophie du vivant est spéculative. L'éthique, c'est l'homme qui agit sur un autre homme. Pour l'éduquer, pour le perfectionner, pour l'aider. Ars adiuvans naturam. La médecine, c'est ça. C'est un art qui vient aider la nature. Mais il faut que ça coopère à la nature. Le jour où cet art ne coopère plus à la nature et devient un art qui exploite la nature, qui tyrannise la nature, il est mauvais. Alors vous comprenez comme c'est délicat. Parce qu'il faut comprendre ce que c'est que la nature humaine. Si je ne veux pas comprendre ce que c'est que la nature humaine, et je regarde la nature humaine uniquement comme ce qui est donné, à ce moment-là, je ne peux plus comprendre ce qu'est l'éthique. Je ne peux plus comprendre comment on peut mettre des interdictions. Ceci, c'est parce qu'on ne regarde plus que l'efficacité. L'efficacité ne peut pas être la mesure de la chose. Bon. S'il y avait des questions là-dessus, il faut les poser pour essayer de bien comprendre. On sert le problème. Hein? Et je vous montre pourquoi je ne traite pas ici de la question de la fécondation artificielle. Au plan philosophique. Je dois la traiter au niveau éthique familial. Donc en politique. Mais dans la famille. C'est à ce moment-là que je la traite. Ou je peux la traiter dans une vision de sagesse. Parce que la vision de sagesse présuppose tout. Pour voir si dans une vision de sagesse je peux dire quelque chose. Est-ce que la procréation permet-elle l'intervention d'un instrument? Vous voyez comme on traite dans une vision de sagesse que la création, l'acte créateur de Dieu, ne tolère pas d'instrument. Dieu en créant ne peut pas servir d'instrument. Alors, est-ce que la procréation peut se servir d'instrument? Ou est-ce que c'est abîmer la procréation que de se servir d'instrument? Ou abîmer la source de la procréation qu'est l'amour? Vous voyez, il faut serrer les problèmes. Hein? Parce que si on ne les serre pas, si on ne les situe pas exactement dans telle lumière, on ne peut pas répondre. On répond toujours à côté. Alors, j'ajoute ici une question. La fameuse question qui existe dans saint Thomas et dans Aristote. La manière dont Aristote concevait la procréation. La manière dont saint Thomas à la suite d'Aristote, conçoit la procréation en théologie. Pour Aristote, la procréation va impliquer que l'homme est l'élément actif et que la femme est l'élément passif. Aristote revient constamment là-dessus. Il revient constamment sur ce fait de la coopération de l'homme et de la femme dans la procréation. Et si Aristote revient là-dessus, du moins si Aristote traite cette question, c'est pour essayer de comprendre comment il peut y avoir coopération. Il faut bien regarder la perspective d'Aristote. Pour qu'il puisse y avoir coopération, il faut nécessairement qu'il y en ait un qui soit actif.